Mare Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Zinzinex. Aujourd'hui, c'est le 41e numéro de notre émission Mare Nostrum. Avec Fabrice, bien sûr, toujours fidèle à la technique, et votre serviteur Raymond qui assure la préparation et la présentation de cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un pays pas tout à fait méditerranéen. C'est-à-dire qu'il ne borde pas cette Mare Nostrum, mais quand même, on peut dire qu'il n'est pas très loin de la Méditerranée, qu'il a été fréquemment sur le chemin de la Méditerranée. C'est le pays des mille et une nuits, pays d'une très vieille civilisation qui tient une place importante dans l'actualité en ce moment, l'Iran. Et en particulier, nous allons parler aujourd'hui, nous allons évoquer la société iranienne, qui est une société complexe entre tension et cohésion, et qui peut nous apparaître assez proche par une certaine modernité et lointaine par une pratique religieuse très prégnante, dont on s'est beaucoup soucié en Occident au moment de la révolution islamique. Alors pour évoquer ce sujet, nous avons invité quelqu'un qui est habitué, Christian Bomberger, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes encore une fois notre invité, et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit. Et nous vous remercions donc d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Vous êtes, je rappelle que vous êtes professeur émérite d'ethnologie à l'IDEMEC, c'est donc l'Institut d'ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative, ce laboratoire d'ailleurs que vous avez créé et dirigé pendant de nombreuses années. C'est un laboratoire de la MMSH, Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, à Aix-Marseille Université. Et vous savez, chers auditeurs, que nous sommes partenaires d'Aix-Marseille Université. Vous êtes aussi membre de l'Institut universitaire de France et vous avez eu et vous avez encore de nombreuses fonctions administratives et scientifiques dans des institutions universitaires, mais aussi des musées et diverses revues scientifiques en France et à l'étranger. Et vous avez dirigé, ce qui explique un peu que vous soyez là, vous avez dirigé l'Institut français de recherche en Iran.
Oui.
Et vous avez beaucoup produit sur l'Iran, beaucoup écrit sur l'Iran. Voilà, donc cette société iranienne qui nous interroge, qui est lointaine et qui est quand même assez proche par sa modernité, comme je disais tout à l'heure, nous allons essayer d'en examiner un petit peu les tensions, les contradictions, la cohésion. Et pour en parler, donc, on va peut-être commencer par présenter ce pays. On ne va pas, peut-être pas remonter jusqu'à son origine, parce qu'il faudrait remonter loin.
Oui.
C'est une des civilisations très anciennes de la région méditerranéenne au sens large.
Oui, tout à fait, oui. Donc, puisque, si vous voulez, si on prend des sites comme Djiroft, c'est des sites qui appartiennent au néolithique. Et puis, il y a eu les Achéménides, les Parthes, les Sassanides. Bref, toute une histoire avant les invasions aussi, donc arabes du 7e siècle, puis turco-mongoles du 11e, 13e siècle. Bref, une histoire véritablement à la fois très ancienne, très saccadée, ce qui fait que l'Iran se présente souvent comme le premier État au monde, ce qui n'est pas entièrement exact, peut-être que l'Égypte l'a devancé, mais enfin, c'est vrai qu'il y a un ancrage historique de ce peuple et en même temps de cette langue, le persan. Le persan qui est une langue malgré les invasions dont je parlais, s'est prorogé jusqu'à l'époque contemporaine, avec des modifications, mais néanmoins, c'est cette continuité qui est assez remarquable. Alors, en même temps, il faut bien voir qu'Iran, ça veut dire « à rien ». Iran Vej, en Pahlavi, dans la langue en moyen persan, c'est le pays des Ariens. Et donc, par rapport aux voisins qui sont des Arabes aujourd'hui, ou bien par rapport au monde indien également, donc on a là véritablement une sorte de monde relativement autonome qui est ce monde iranien, avec sa spécificité, avec sa langue, avec aussi donc une conscience d'être un État supérieur aux autres, qui est quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'on ne comprend rien, je crois, à l'Iran, si on n'a pas cette idée, si vous voulez, qui est bien ancrée chez les gens, qu'il y a l'Iran et les autres.
Donc c'est un pays qui est vraiment très, très particulier. Et donc, de cette longue histoire, donc, vous disiez donc cette langue qui a traversé les siècles, même avec des modifications évidentes sur le cours de son histoire. Et donc, cette langue, finalement, au XXe siècle, avec la dernière dynastie qui a régné, parce qu'on peut dire que c'est ça, sur l'Iran, elle a été un des éléments d'unification et de centralisation dans l'Iran.
Oui, alors la dynastie Pahlavi, c'est-à-dire donc Reza Shah et son fils Mohammad Reza, de la période 1925 à 1979. Eux, ils ont transformé un vieil empire multiethnique en un état-nation centralisé, avec le persan comme langue officielle et avec aussi un découpage en provinces, les Ostans, mais un découpage qui évitait surtout, parce qu'il y a bien une province qui s'appelle le Kurdistan, mais les Kurdes ont une zone d'expansion beaucoup plus large que cette province, et de même, d'ailleurs, il y a un Baloutchestan, Seistan, mais c'est beaucoup plus... Mais il n'y a pas de province du Baloutchestan qui serait l'expression un peu de l'identité ethnique des Baloutches. Donc il y a cette volonté centralisatrice et unificatrice qui a été dans le projet des Pahlavi, donc de 1925 à la révolution islamique de 1978-79.
Et est-ce que cette révolution islamique a changé quelque chose dans cette politique centralisatrice?
Alors peut-être un petit peu plus de tolérance par rapport aux langues régionales et aux cultures régionales, mais surtout l'imposition à travers le pays d'un mode de vie unificateur qui est le mode de vie islamique, et donc véritablement quelque chose qui marque beaucoup l'Iran. Alors vous rappeliez dans votre introduction aussi qu'un autre trait qui fédère un petit peu la nation iranienne, c'est son ouverture à la modernité. C'est vrai aussi, surtout dans les grandes villes, mais également parfois dans les campagnes. Donc il y a à la fois cette unification du mode de vie islamique. Moi, ça m'a beaucoup frappé dans la province que je connais le mieux, là, la province du Gilan, au nord de l'Iran, où en définitive, avant, il y avait des coutumes régionales assez singulières, avec des maisons notamment où l'on pouvait voir ce qui se passait au moins sur la véranda, etc. Depuis, il y a des murs, au contraire, qui doivent encercler ces maisons pour que ça ne soit pas aussi visible de l'extérieur. Bref, si vous voulez, toute une série de mesures pour encourager la pudeur, la pureté, etc. Et donc, il y a eu véritablement une unification des mœurs imposées qui est la marque du régime islamique.
Oui, c'est finalement un approfondissement de ce qu'avait commencé la dynastie des Pahlavi.
Oui.
C'est aller encore plus loin dans le domaine de l'unification
Alors,
de la société.
C'est vrai aussi qu'il y a eu un mouvement de circulation des gens pendant la guerre Irak-Iran de 1980 à 1988.
Ah oui.
Et donc ces mouvements de population qui ont eu lieu à la faveur, si j'ose dire, de cette guerre, ont entraîné aussi une unification et des modes de vie et des contacts et des relations ville-campagne, etc., etc. Et en même temps, ont renforcé le sentiment national. Il y a un sentiment national iranien qui est très, très vif et très fort.
Oui, donc ce mouvement procuré par la guerre Iran-Irak, ces mouvements de population, finalement, renforcé.
Oui, tout à fait.
Cet aspect de la société iranienne.
Tout à fait, et renforcer le sentiment national.
Et renforcer le sentiment national. Et est-ce que cette situation s'est maintenue, ou est-ce que on voit apparaître, je veux pas dire une contestation, mais en tout cas quelque chose qui mettrait un petit peu en question cette unification, d'une certaine façon.
Alors, il faut bien voir que les cultures régionales demeurent et que si 50% de la population à peu près a le persan pour langue maternelle, c'est 50% seulement. C'est pas 100% de gens qui ont le persan pour langue maternelle. 85% de la population parle le persan parce que c'est ce qui est enseigné à l'école, mais néanmoins, la langue maternelle est différente. Et il y a, surtout sur les frontières de l'Iran, un certain nombre de contestations qui peuvent être soit uniquement culturelles, soit plus ou moins violentes avec des revendications d'autonomie. Je pense au Kurdistan qui se trouve donc à l'ouest. Je pense aussi aux Turcs Azeri qui forment 20% de la population au nord-ouest. Et je pense aussi aux Baloutches au sud-est de l'Iran, où là aussi vous avez une population qui a une forte singularité. Et alors ces populations ont tenté de s'affranchir de cette domination du centre, d'autant plus qu'à l'extérieur des frontières de l'État iranien, leurs cousins, pour ainsi dire, ont conquis leur indépendance. Je pense à l'Azerbaïdjan, au nord-ouest. Je pense aussi à la région autonome du Kurdistan dans l'actuel Irak. Je pense aussi à la région autonome du Baloutchistan au Pakistan. Bref, il y a là, toujours de l'autre côté de la frontière, des situations d'autonomie qui n'ont rien à voir avec ce que l'on connaît en Iran. Et donc, il y a cette volonté plus ou moins accusée, plus ou moins violente, plus ou moins revendicative d'autonomie qui prend des formes soit simplement d'expression culturelle renouvelée et renforcée, soit au contraire qui prend des formes plus radicales et plus violentes. Je pense par exemple au Baloutchistan et dans une certaine mesure au Kurdistan.
Mmh. Donc ces périphéries sont donc un facteur finalement d'instabilité vraiment ou pas tout à fait?
Oui, d'instabilité dans la mesure où il s'agit véritablement d'un État centralisé.
Oui.
Et il n'y a pas, si vous voulez, de région autonome avec un parlement régional comme nous pouvons le connaître en France, même si c'est un pays jacobin qui a plus récemment accordé aux régions une certaine importance. Il n'y a pas, si vous voulez, en Iran, d'institution régionale. Donc il y a véritablement une concentration à l'échelle nationale.
Oui, donc la revendication est d'autant plus vive, alors.
Elle est d'autant plus vive, oui, dans la mesure où... Alors, parfois, moi, dans la région que je connais le mieux, là, dans le nord de l'Iran, c'est une expression surtout culturelle, avec des festivals de culture régionale, avec des revues ethnographiques ou culturelles qui fleurissent, etc. Mais là, c'est uniquement une protestation culturelle, si vous voulez, une revendication d'une plus grande reconnaissance, alors que dans d'autres régions, je vous parlais du Kurdistan et du Baloutchistan, la revendication peut être plus virulente.
Oui, c'est-à-dire que là on a une revendication qui est une revendication culturelle, et dans les autres, c'est plus une revendication ethnique.
Une revendication ethnique et politique, oui, donc avec la volonté véritablement... Parce qu'il faut bien voir aussi que ces zones du nord-ouest et du sud-est, là où sont les Kurdes, et là où sont... enfin, ouest pour les Kurdes et sud-est pour les Baloutches, ce sont des régions très pauvres en même temps. Mmh. Et donc, il y a à la fois une revendication qui est ethnique, politique et économique, dans la mesure où on a l'impression, où les gens ont l'impression d'être abandonnés par l'État central.
Oui. Et est-ce que ces populations sœurs, si je puis dire, qui sont au-delà des frontières, est-ce qu'elles ont un rôle dans cette instabilité? Est-ce que les Baloutches qui sont au-delà de la frontière...
Oui, il est évident, si vous voulez, qu'il y a des connexions entre de part et d'autre de la frontière, et puis qu'un certain nombre d'États aussi, qui sont hostiles à l'Iran, favorisent ces mouvements sécessionnistes ou ces mouvements de singularisation. Donc, oui. Ça, c'est indiscutable. Alors, avec plus ou moins d'intensité, mais ça répond aussi à des revendications qui sont ressenties par la population. Il ne faut pas voir uniquement, si vous voulez, à une sorte de complot international, comme souvent le gouvernement iranien les présente.
Oui, d'accord. Le gouvernement iranien a tendance à penser et à annoncer qu'on a là la main de l'étranger.
Oui, et d'un étranger.
Et d'un étranger en particulier.
En particulier.
Voilà, oui, d'accord. On va faire une petite pause musicale. یک ندا آمد عجب از کوی دل یک ندا آمد عجب از کوی دل بید لنگی پا به یک بار آمد دل موسیقی Alors après cette évocation, alors ce qu'on vient d'entendre, il faut quand même que je le dise, c'est Hossein Alizadeh qui a un ensemble musical important et qui compte vraiment en Iran, peut-être plus dans la diaspora d'ailleurs.
Oui, alors évidemment, dans c'est la ça, diaspora, hein. Il faut bien voir que cette diaspora est très importante.
Hein. Et oui.
C'est 2 ou 3 millions d'individus, 500 000 à Los Angeles, avec véritablement là aussi une radio, une télévision iranienne qui est diffusée jusqu'en Iran à travers des paraboles qu'il faut dissimuler. Mais donc véritablement une diaspora qui a un rôle important et qui est très attachée à cette culture iranienne.
D'accord.
Très, très attaché. Et d'ailleurs, même en France, il y a des tas de sites qui répercutent toutes les manifestations iraniennes. Et Dieu sait qu'il y en a, de musique, de littérature, de discussions, etc. Donc là, on peut se reporter à plusieurs sites qui font écho à cette activité culturelle extrêmement foisonnante.
D'accord, mais écoutez, on bouleverse un peu notre fil, parce que comme on parle de ça, on parle de cette diaspora, qui est intéressante d'abord parce qu'elle est très nombreuse, vous venez de le signaler, beaucoup d'Iraniens ont quitté l'Iran au moment de la révolution islamique, ils sont installés en particulier aux États-Unis, mais même avant, il y avait une diaspora importante avant la révolution islamique, et cette diaspora donc contribue largement à maintenir vivante une culture qui peut-être se serait éteinte avec la révolution islamique.
Alors oui, c'est vrai qu'elle a une importance considérable pour le maintien de cette culture iranienne traditionnelle et savante, dans la mesure où, d'ailleurs, c'est une diaspora pas du tout comme les diasporas du Maghreb, par exemple, qui sont constituées surtout de gens pauvres qui sont venus chercher de quoi manger en Occident. Là, au contraire, il y a très peu de diasporas d'ouvriers iraniens en Occident. C'est une diaspora d'intellectuels, une diaspora de gens qui appartiennent aux classes supérieures. Mmh. Et donc, ils sont très attachés à cette culture, une culture qui puise dans l'histoire même de l'Iran, et donc ça peut être aussi bien la musique que la poésie, que par ailleurs aussi la littérature, bref, tout ce qui, ou l'architecture, ou l'archéologie, bref, tout ce qui touche à l'identité pluricentenaire de l'Iran.
Oui, donc ça renvoie en Iran, à travers les canaux de télévision et autres, ça renvoie à une culture qui n'est peut-être pas au goût des gouvernants de l'Iran.
Oui, alors, si vous voulez, ce qui est frappant, c'est que, bien évidemment, cette culture n'est pas bien vue. Elle est dénoncée comme étant véritablement quelque chose qui vient d'un Occident lui-même pourri. Et donc, les... la retransmission des émissions de la télévision iranienne de Californie est interdite et donc il faut avoir des antennes paraboliques pour la recevoir, lesquelles, si elles sont repérées par les Basidji, donc par les volontaires de la Révolution, eh bien à ce moment-là, ou bien par la maréchaussée, ça donne lieu à des condamnations en tout cas et à des amendes extrêmement élevées. Donc il y a ce souci véritablement. D'ailleurs, dès qu'il y a une association culturelle qui se crée en Iran, et même dans la province, immédiatement, il y a une association étatique qui la double. Et ce qui fait que, donc, il y a un contrôle, si vous voulez. Alors moi, je pourrais vous donner une anecdote amusante de cela. C'est, vous savez, dans le nord de l'Iran, il y a les Gilaks, mais il y a aussi les Galesh, qui sont plutôt une population pastorale sur les monts de l'Elbourz. Donc, et qui avait un vieux calendrier qui n'est même pas le calendrier qui commence au printemps, qui est le calendrier iranien, mais qui est un calendrier qui commence au mois d'août. Et donc, ils se réunissent en haut d'une montagne tous les ans pour fêter ce nouvel an. Mais là, veille des gardiens de la Révolution, bien des envoyés de l'Ostandari, c'est-à-dire de la préfecture, qui viennent dire aux gens, scandez plutôt Khalid Jefars, Khalid Amishefars, le golfe toujours persique, parce qu'ils ne veulent pas qu'on l'appelle arabo-persique.
Bien sûr, bien sûr.
Et d'autre part, quand ils allument le feu, un feu qui marque la renaissance de l'année, immédiatement des pompiers viennent éteindre le feu. Donc, voyez à quel point est détourné à ce moment-là le sens de la manifestation culturelle et comment tout cela est contrôlé. Donc, je crois qu'il faut bien voir. Alors, en même temps, très souvent, c'est assez... Là, c'est énorme, ce que je vous raconte.
Ah oui, mais, c'est
ça peut être, mais ça peut être plus subtil, des associations concurrentes qui parlent quand même de la culture régionale, mais qui, en même temps, montrent l'adhésion de la population régionale au régime islamique central. Donc, il y a là, si vous voulez, toute une déclinaison des possibles en matière de relations avec les cultures régionales, mais toujours le souci de les contrôler et d'avoir une version officielle de la culture de telle ou telle région.
Oui, destinée à combattre...
Destinée à combattre les revendications.
Les revendications des autres. Et alors, par effet miroir, alors on a donc une culture iranienne... pré-État islamique qui est diffusé comme ça. Mais est-ce que, par effet de miroir, les Iraniens qui habitent en Iran voient dans cette diaspora un moyen aussi de s'occidentaliser ? Est-ce que c'est un modèle, c'est un moyen, c'est un canal d'occidentalisation de la société ?
Vous savez... L'occidentalisation de la société, elle ne vient pas seulement de la diaspora, mais aussi d'Internet, des moyens de communication aussi. Aujourd'hui qui sont extrêmement développés, y compris en Iran. Et donc la possibilité, avec la subtilité des Iraniens, dès que quelque chose est censuré, pour contourner cette censure et accéder à l'information par un autre biais. Et donc, ce qui est très frappant, c'est de voir comment, en effet, une culture mondiale, une culture globalisée se répand en Iran. Et c'est très frappant, moi, ça m'avait beaucoup frappé dans le domaine des sports. Et, par exemple, comment le football, sport international par excellence, se diffuse au détriment de la lutte, qui est le sport traditionnel en Iran. Et comment, à vrai dire, aussi sur le sport, sur le football, se greffe toute une série de manifestations de revendications sociales, cette fois-ci, et pas ethniques, par exemple. Les femmes sont... Alors, je ne sais pas ce qui se passera pour le match Iran-Cambodge qui doit se dérouler dans quelques jours.
Mais on va avoir...
peut-être qu'il y aura des femmes qui seront à l'intérieur du stade. Mais jusque-là, il y avait une interdiction pour les femmes de participer, d'assister aux matchs de football à l'intérieur des stades, dans la mesure où on trouvait que c'était véritablement un lieu où on pouvait voir, d'une part, des hommes dévêtus, pas tellement, et puis, d'autre part, où il y avait cette culture masculine... très graveleuse, qui s'exprimait dans les gradins et qui était une offense à la pureté féminine. Donc, c'est vrai qu'il y a ce combat entre l'occidentalisation et puis d'autre part le régime des mollahs qui est extrêmement vive dans le domaine des sports et dans la mesure où il s'agit là de tenue, de rectitude des comportements et d'autre part aussi du statut des femmes qui est un point très sensible dans l'Iran d'aujourd'hui.
Et oui, on a vu d'ailleurs récemment des femmes arrêtées, dont une, j'ai vu passer ça, qui s'était habillée en homme pour essayer de rentrer voir un...
Alors en effet, d'ailleurs, c'est le thème de Offside, le film de Panahi, donc, et qui montre cette femme qui essaie de rentrer dans un stade. Et puis, mais parfois, on voit que cette femme-là qui est rentrée dans un stade très récemment s'est immolée par le feu, dans la mesure où elle est écopée d'une punition de 6 mois de prison, je crois, pour cette tentative indue. Donc il y a là, évidemment, à travers le sport, toutes ces revendications qui existent et qui sont fortes dans la société iranienne, surtout, il faut le préciser, dans les classes moyennes et les classes supérieures de la société.
Dans les C'est classes pas très plus, populaire, alors.
Dans les classes plus populaires, qu'une femme aille assister à un match de football, non. C'est pas quelque chose, si vous voulez, qui sera répandu. Mais c'est vrai que c'est plutôt une revendication urbaine de classe moyenne et de classe supérieure. Et donc, on a là, d'ailleurs, toute la complexité de la société iranienne, dans la mesure où des cérémonies qui peuvent paraître extrêmement archaïques pour nous, comme par exemple les cérémonies de Ashura. Ashura, c'est ce qui... célèbre le martyr de l'imam Hossein, le troisième imam des chiites, qui est mort dans des conditions atroces en 680 à Karbala, sous les coups des troupes de Yazid, le calife sunnite. Eh bien, là, on a quelque chose, la foi est réelle de ces jeunes gens qui vont dans ces imamzadeh, dans ces lieux de réunion cultuelle, et qui se mettent torse nu, se frappent la poitrine avec un panégyriste qui ressemble à une sorte de DJ. Et donc, on a là quelque chose qui nous rappelle à la fois ce qui se passe dans les stades de football de chez nous, avec ces groupes de jeunes supporters qui se frappent la poitrine en cadence ou bien qui sont torse nu pour acclamer les leurs et discréditer les autres. Et puis, en même temps, il y a cette foi très profonde, très réelle, de ces jeunes gens, et donc un mélange d'hyper-traditionalisme et d'hyper-modernité qui est souvent caractéristique de l'Iran d'aujourd'hui. Et alors, il suffit que l'on mette en cause ces principes de la foi de ces jeunes gens pour que tout à coup, ce qui pouvait apparaître comme ouverture à l'Occident apparaissent comme une force, comme l'occasion au contraire de se replier sur ses certitudes et sur une foi ancrée plus dans la tradition.
Oui, c'est un mélange assez étonnant.
Là. Oui, c'est un mélange détonnant.
Étonnant et détonnant, cette manifestation à la fois quasi religieuse et puis en même temps très, très comment on peut dire... ancré un peu dans l'avenir.
Hyper moderne.
C'est assez curieux ces comportements. Alors donc là on parlait de l'occidentalisation. On va faire une petite pause musicale avec une jeune femme qui s'appelle Sonita Alizadeh qui a chanté sa chanson. C'est une rappeuse qui chante une chanson qui s'appelle « Mariée à vendre » et qui s'est engagée contre le mariage des enfants. همه چی عالیه من که از خدا من لبخند باشه بله باشه ما اگه لبخند دارم من بچه واقع باشه ما اما ای کاش خدا برشه ما مرور شه کاش بفهمیم نگفته زن بری فروشه چه با شاد باشیم به محتاج به آرامشو به تنها بگذاریم بیزار از آرایشو صورتی که بوده اینجا آرایشی درمو نمی کنه کاری که شما کردیم کافر با مثل مو نمی کنه خدا زجو بره وقتی بری و بیحساسی در اون خوش کسی بری که اون نمیشناسی دیگه ادامه دادن حرفا هم به سختیه بریم خوشی شما نهایت خوشبختیه اما به من نگاه بجری من از یاد نبر کسی که با مرزا و بالا سخش ما بود تا سهر به میرو ما از روز بشه ما دست برو اما نگران و شما دست کی بسپارو به میرو مگه دلتنگ Après cette protestation contre les mariages arrangés d'enfants, on va revenir sur un des éléments importants de l'identité iranienne, qui est donc la religion. Alors là, il faut peut-être un petit peu expliquer cette place particulière de l'Iran dans le monde islamique.
Oui, alors, il faut peut-être remonter à la mort du prophète.
Ah, remontons alors.
Qui pouvait être le successeur du prophète? Les sunnites optèrent pour Abou Bakr, le vieux compagnon du prophète, et les chiites optèrent pour le principe généalogique, c'est-à-dire pour le gendre et le cousin du prophète qui était Ali. Chia, ça veut dire partisan, les partisans de Ali. Mmh. Et donc, Ali a été le premier imam des chiites, donc le premier guide des chiites. Le troisième, ça a été Hossein, qui a été tué dans des conditions atroces à Karbala, nous en parlions tout à l'heure. Mm-hmm. Et dans le chiisme iranien, qui est un chiisme duodécimain, c'est-à-dire qui croit en 12 imams, donc il y a eu cette succession des imams qui ont tous connu des sorts épouvantables. Et le 12e a disparu en 874. Et il reviendra à la fin des temps. Dans les conceptions les plus interreligieuses, ils reviendront bras dessous avec le Christ au moment pour restaurer, si vous voulez, au moment de, pour restaurer l'ordre dans un monde qui aura été...
C'est très messianique, ça.
Très messianique, oui. Et par ailleurs, donc, comme ces imams sont les seuls à avoir eu un pouvoir juste et légitime, que faire en l'absence de l'imam et dans l'attente de l'imam caché? Les théologiens ont eu deux positions différentes sur cette question. Soit se replier sur la vie religieuse et la vie de prière en attendant pieusement ce retour, sans se préoccuper trop des désordres du temps. Soit au contraire avoir une vision plus politique et plus agressive face au pouvoir en place, en se recommandant de l'islam et donc de ses recommandations venant des écrits chiites à travers le temps. Alors ça, c'est la position qu'a adoptée l'ayatollah Khomeini lors de la révolution, en instituant un pouvoir et un régime islamique dominé par les clercs où s'exerce le velayat e faqih, c'est-à-dire la souveraineté du docte théologien, en l'occurrence donc l'ayatollah Khomeini. Et à ce moment-là, donc, une prise en main du pouvoir par les religieux eux-mêmes. Donc vous voyez comment on a ces deux tendances. Puis alors il y a évidemment une infinité de nuances parmi ces deux tendances. Soit cette tendance revendicative du pouvoir qui est récente, soit au contraire une tendance, si vous voulez, qui soit un refuge dans la prière et dans la spiritualité, soit alors en étant le conseiller du prince, mais un conseiller qui fait juste valoir simplement ce qu'il ne faut pas faire en matière religieuse et qui fait observer un certain nombre de dogmes pour que le pouvoir ne soit pas entièrement corrompu. Mmh. Donc il y a ça. Alors, l'autre aspect dont nous parlions tout à l'heure, c'est le martyrisme. Le martyrisme, et notamment donc ce qui s'est passé à Karbala en 680, le meurtre de l'imam Hossein, ces scènes épouvantables pendant le mois de Muharram, où véritablement l'imam et les siens ont été, à l'exception d'un de ces jeunes fils et à l'exception des femmes, ont été martyrisés. Et donc, ces cérémonies... qui évoque le martyr de l'imam au mois de Muharram, qui est le premier mois de l'année musulmane, mais qui est une année donc lunaire, et donc qui constitue l'autre pôle de l'effervescence en Iran, l'autre pôle étant, vous voyez comment la culture venant des fonds des temps et la culture plus venant de l'islam se contrebalance. L'autre temps, c'est le temps de Nowruz, c'est-à-dire de la nouvelle année. La nouvelle année qui intervient à l'équinoxe de printemps et qui est une année solaire, là, donc. Une année qui se répète. Donc, il y a ce contrebalancement du solaire et du lunaire avec ces deux moments d'effervescence. Mais alors, les mollahs étaient évidemment très opposés à Nowruz, à la nouvelle année qui puisait ses origines dans les temps anciens. Et donc, se sont appropriés Nowruz, soit d'abord ont interdit des manifestations lors de Nowruz, et puis ensuite ont récupéré Nowruz en disant « Oui, mais c'est le jour où, véritablement, il y a eu toute une série de manifestations du divin par rapport à ce qui se passait en Iran. Et donc, c'est l'époque où, notamment, l'archange Gabriel, c'est la date où l'archange Gabriel a donné la révélation à Mohammed, etc. » Donc, si vous voulez, une redéfinition de Nowruz pour mieux se l'approprier. Et donc, véritablement, là, il s'agit d'une lutte symbolique autour de Nowruz. Donc, il y a ces deux aspects dans le schisme. Il y a d'une part cette relation particulière au pouvoir, et d'autre part, il y a cette exaltation du martyr et cette reproduction des scènes de martyr lors de la commémoration du martyr du troisième imam, Hossein. Mmh.
D'accord. Et donc, par rapport à ces croyances, l'Iran est finalement assez isolé dans sa région.
Alors, l'Iran est assez isolé. On a parlé néanmoins d'un arc chiite, bon, qui passe par Bahreïn et puis qui va aussi dans le sud du Liban, là où se trouve le Hezbollah. Donc, c'est vrai qu'il y a néanmoins un certain nombre de communautés chiites au Proche-Orient et une solidarité qui est assez forte. Alors, il ne faut pas non plus se dire que tout ce qui est politique va se réduire à des termes religieux, mais ne pas en tenir compte serait, à mon avis, une erreur. Il y a véritablement cette solidarité confessionnelle, y compris avec la Syrie. Je ne vais pas revenir dans le détail sur ce que sont les croyances établies par une minorité en Syrie, mais c'est vrai qu'il y a là cette proximité, si vous voulez, qui fait qu'on a une alliance religieuse, un fondement religieux, qui n'est pas exclusive néanmoins du soutien qu'apporte l'Iran au Hamas à Gaza, donc là il s'agit de sunnites. Ouais. Mais il y a quand même cette solidarité chiite qui est quelque chose de fort. Et d'ailleurs, vous avez près de Damas le Zainabiyye, donc le sanctuaire consacré à la sœur de l'imam Hossein, Zainab, qui attire beaucoup de femmes, notamment venant d'Iran et y allant en pèlerinage.
Mmh. Et donc, ça veut dire quand même que cette façon pour l'Iran d'arriver jusque sur le bord de la Méditerranée, justement, c'est quand même plus politique que religieux.
C'est plus politique que religieux, oui et non, dans la mesure où... Alors, c'est vrai qu'il y a eu une extension de la civilisation iranienne dans les époques reculées jusque vers la Méditerranée. Mais là, bon, c'est un mélange de religion et de politique. Mmh. Et les deux vont de pair. Ouais. Et je crois que... vous voyez, il y a pas mal de politistes qui vous disent « Mais non, c'est uniquement de la politique, ne mettez pas la religion au milieu de tout ça. » Mais vous savez, la religion, c'est quelque chose de fort important dans la définition des nations. Même quand il n'y a plus tellement de croyances, ça reste quelque chose de fédérateur quand même et qu'on ne peut pas négliger.
Oui, c'est quand même un moyen de se retrouver, de resserrer les rangs et... c'est un élément important de l'identité.
Absolument.
Donc c'est vrai que forcément, ça déborde sur la politique. Forcément.
Oui.
C'est tout à fait évident. Alors, doctrine religieuse, donc minoritaire dans l'islam, on vient de le voir. Ce qu'on peut quand même, pour terminer sur ces problèmes d'identité intérieure, on passera sur un autre thème. C'est ce que vous évoquez dans pas mal de vos écrits, les comportements sociaux qui se modifient entre l'intérieur de l'Iran, l'extérieur de l'Iran, ou l'intérieur de la maison, l'extérieur de la maison, on a un comportement qui n'est pas forcément le même
dans
la société iranienne.
C'est vrai que, là je commencerai par citer ce que me disait un vieil ami iranien. Il me disait, avant la révolution, j'allais à l'extérieur faire la fête avec des copains et je faisais ma prière à la maison. Aujourd'hui, je vais faire ma prière à la mosquée et je fais la fête à la maison. Bon, c'est un peu, si vous voulez, en effet...
C'est une révolution, là.
Une forme assez caricaturale. Vous savez, il y a une opposition qui est importante en Iran, c'est l'opposition entre le batin, l'intérieur, et le zahir, l'extérieur. Et donc, il y avait une certaine continuité du temps du Shah. Le batin, c'est l'intérieur, c'est là où on le regarde ses amis dans le fond des yeux et on parle de choses graves. Donc, c'était ça. Et puis, du temps du Shah, donc l'extérieur, là, on allait écouter de la musique, boire éventuellement un peu d'alcool, etc. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il n'y a plus cette correspondance entre l'intérieur et l'extérieur. À l'intérieur, on va faire la fête. Et à l'extérieur, au contraire, on va avoir une mine plus grave et plus conforme à ce qu'impose la société prônée par le gouvernement. Donc, il y a là quelque chose, il y a un look islamique que l'on doit avoir, notamment dans les espaces officiels, à l'école, dans les universités, etc. Et puis, il y a une contestation, évidemment, de ces formes de plus en plus vives aujourd'hui, et notamment dans les grandes villes où on ne supporte plus, d'une part, ces impositions de mœurs qui sont... contraire à ce qu'avaient l'habitude de vivre les Iraniens, et les Iraniens des classes moyennes et supérieures notamment. Et puis, d'autre part, il y a aussi une lassitude du martyrisme, de cet appel au martyr, au martyrisme. Bon, ça a certes fonctionné, et à juste titre, pendant la guerre Irak-Iran, avec ses 500 000 morts du côté iranien. Mais maintenant, cet appel constant, si vous voulez, aux martyrs, à la fondation des martyrs, aux avantages donnés aux familles de martyrs, etc., il y a une lassitude très forte dans la population par rapport à cela.
Est-ce qu'on peut dire que l'espace privé, donc festif, et l'espace public plus cadré, est-ce qu'on peut dire que c'est l'espace privé qui est en train de se manifester petit à petit dans l'espace public, avec en particulier le mouvement des femmes qui vont donc dans les rues en enlevant leur foulard.
Vous savez, les femmes qui font ça, elles sont courageuses.
Oui, je suppose.
Elles sont arrêtées et mises en prison. Et donc, véritablement, il s'agit là d'une minorité active. Parce que le problème, pour changer de système, je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemble Téhéran, ce sont de grandes avenues. Ce n'est pas les rues du quartier latin où vous pouvez partir sur le côté et vous échapper là, dès qu'il y a un assaut des forces de l'ordre. Non, là, véritablement, il y a des risques très grands qui peuvent être pris. Et donc, les Iraniens ont pris l'habitude de mener cette double vie. Mais quand ils manifestent à l'extérieur, là, il y a des risques quand même fort importants qui subsistent. Oui.
Il n'y a pas de relâchement.
Il y a une répression. Oui, parce que alors, ce qu'il faut bien voir aussi, vous savez, on parle très souvent du président de la République. Aujourd'hui, c'est M. Rouhani. Mais M. Rouhani, le président de la République, ce n'est pas comme le président de la République chez nous. Il a le pouvoir, la moitié du pouvoir d'un premier ministre chez nous. Celui qui décide, c'est le guide. C'est Ali Khamenei. C'est pas M. Rouhani. M. Rouhani, il est sans doute plus conforme à ce que nous attendons d'un responsable politique, mais c'est pas du tout lui qui va décider de ce qui se passe réellement. Et donc, là, il y a très souvent une erreur qui est faite en Occident, en se disant « Ah oui, mais le président de la République a décrété que, etc. » Oui, il peut décréter tout ce qu'il veut, mais si le guide n'est pas d'accord, à ce moment-là,
ça passe pas. D'accord. Ah oui, c'est quand même... La rigueur reste de mise.
La rigueur reste de mise.
D'accord. Absolument. Un petit peu de musique. Alors là, on va écouter Hassan Tabar.
Ah oui, Hassan Tabar.
C'est la musique classique iranienne, mais magnifique.
Thank you.
Alors donc cette société iranienne, on vient de parler donc de cette dualité entre l'espace privé et l'espace public. Et ce qu'il faut ajouter, donc, c'est que dans ces deux espaces, finalement, règne une ambiance de délation assez lourde, c'est ça ?
Oui, c'est le soupçon. Le soupçon. La personne qui est à côté de vous, là, est-ce qu'elle ne va pas aller vous dénoncer auprès des autorités ? Donc, et puis alors, il y a quand même en Iran les Bassidjis. Les Bassidjis sont les volontaires, et c'est un nombre très impressionnant, c'est à peu près 1 million d'individus qui étaient définis par quelqu'un comme Hitlerjungen plus Lumpenprolétariat. Vous voyez, donc véritablement, ces gars qui se mettent au fond d'un amphithéâtre pour voir qui prononcerait des mots qu'il ne faut pas prononcer. Donc il y a cette peur et ce fait qu'il y a un contrôle, si vous voulez, et de la population et des gens, de ce qu'ils disent, des relations qu'ils ont avec l'extérieur, avec la diaspora, etc. Donc c'est une société du contrôle, une société véritablement où la répression s'exerce fortement et où, à ce moment-là, d'ailleurs, ça peut se traduire par des années de prison, ce qui fait d'ailleurs que la recherche en Iran est quelque chose d'extraordinairement compliqué. Surtout pour les binationaux. Parce que vous savez, les Iraniens ne reconnaissent qu'une nationalité, qu'on n'a pas le droit d'être binational, d'avoir la double nationalité. Et là, pour le moment, vous avez en prison, pour des peines de prison longues, un certain nombre de binationaux qui faisaient de la recherche là-bas en Iran et qui ont été jugés et emprisonnés. Ouais. Même si le rapport, je pense à cet Américain, historien du Moyen-Âge, qui venait apprendre le persan et qui a écopé 2 ou 3 ans de prison. Enfin, vous voyez, donc, quelque chose de lourd. Alors, en même temps, il y a cette défiance vis-à-vis de la recherche. Est-ce que ce n'est pas un espion qui vient là pour savoir exactement ce qui se passe ? Donc, cette suspicion permanente, avec cette crainte, précisément, de la délation et, d'autre part, cette crainte de l'emprisonnement, voire pire, dans un certain nombre de cas.
Parce que ça arrive. Ça arrive. Alors, donc, société du soupçon, société également de la violence. Cette société iranienne est assez violente, finalement.
Alors, société de la violence, c'est vrai par l'imposition de la charia, oui. Avec un nombre de condamnations à mort qui fait que l'Iran figure véritablement dans le top des pays les plus exécuteurs au monde. Même si ça a un peu baissé, hein, on était en 2018 à 253 dans la mesure. Mais là, pourquoi ? Parce que la législation sur le commerce de stupéfiants s'est un petit peu modifiée. Donc, on exécute moins les dealers. Mais il n'y a pas que qu'on exécute. Il y a aussi, si vous voulez, ces phénomènes, le rétablissement avec la charia du RESA, c'est-à-dire de la loi du talion. Alors, qui donne lieu d'ailleurs à des choses, si vous voulez, qui nous choquent évidemment, non seulement parce qu'il y a mise à mort, mais en plus, imaginez, par exemple, que je tue ma femme. Vous êtes ma femme, je vous tue. Bon, par la loi du talion, les parents, vos parents réclament que l'on me tue. On me tue. Très bien, je suis exécuté. Mais néanmoins, vous devrez, vous, les parents de ma femme, de la femme que j'ai tuée, vous devrez me payer une somme relativement importante parce que vous valez la moitié moins que moi. Moi, je suis un homme, vous êtes une femme, donc vous valez moins que moi, la moitié de moi, et donc il va falloir que vous remboursiez, que votre famille rembourse ma famille, si vous voulez. Donc, vous voyez, il y a ces formes-là qui sont extrêmement...
Ah oui, c'est complexe. Hein.
Qui sont complexes.
Et alors, surprenant.
Et en même temps, surprenantes. Mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi, pour tous ces gens qui s'écartent de la bonne voie, une série de mesures répressives extrêmement fortes, avec des pendaisons, si vous voulez, qui sont nombreuses en Iran, et qui font donc, comme on le disait, que l'Iran figure parmi les pays les plus répressifs en matière de peine de mort au monde. Et puis... Il y a autre chose, il y a une violence plus coutumière qui est une violence à ce moment-là qui s'exerce plutôt dans les tribus ou dans les zones aride de l'Iran. Vous savez, il y avait un ethnologue qui est mort bien trop tôt, Jacob Black Michaud, qui avait essayé de définir ce qu'était une société, ce qu'il appelait le feud society, une société vendettiste. D'après lui, et je crois qu'il avait raison, c'est dans ces sociétés où il y a des biens rares. Alors, en Iran, ces biens rares, qu'est-ce que c'est dans des milieux arides? C'est l'eau, c'est la terre cultivable, et où il y a une gestion coopérative de ces biens rares. C'est le cas en Iran avec ces systèmes extraordinaires de répartition de l'eau. Vous savez, il y a un système de khanat, donc de galeries souterraines qui amènent l'eau des piémonts vers les zones cultivables en plaine. Et donc, il y a là, si vous voulez, une gestion extrêmement minutieuse avec une répartition très minutieuse de l'eau entre les différents ayants droit. Enfin, quelque chose de très élaboré qui est souvent avec un mihrab, c'est-à-dire un chef de la distribution des eaux, qui est élu par les paysans, et donc véritablement un système. Puis alors parfois, il y a aussi des systèmes de redistribution des terres d'année en année, ce qu'on appelle le système des bonnets, etc. Tout ça est un peu d'ailleurs maintenant passé d'actualité, parce qu'on est passé à des formes plus primitives d'exploitation de la terre. Mais donc, il y a ces vieux ensembles où on gère collectivement des biens rares, l'eau, la terre. Et dès qu'il y a une infraction, évidemment, ça remet en cause tout le système. Et donc, il y a des manifestations violentes à ce moment-là qui peuvent s'exercer. Ça m'avait beaucoup frappé parce que dans la région moi, que j'ai étudiée, qui est près de la mer Caspienne, dans le nord de l'Iran, qui est une région de riziculture, il y a très peu d'institutions communautaires. Et donc, il y a très peu aussi de violences liées à... Il y en a un petit peu lié à la répartition de l'eau, mais c'est une zone où il y a de l'eau. Contrairement, si vous voulez, à l'Iran central.
Oui, c'est moins rare.
Où c'est beaucoup plus rare. Donc, Et donc, là, dans ces zones, évidemment, dès qu'il y a, cette tradition de violence, dès que quelqu'un fait une infraction par rapport à cette gestion communautaire de biens rares et précieux.
Et donc, voilà, cette violence, elle est constante, elle est présente à peu près partout, et ça rejoint finalement le martyrisme. Il y a une relation entre les deux.
Alors écoutez, je ne suis pas sûr qu'il y ait une relation. Il y a une relation plutôt peut-être avec le sens de l'honneur, avec le khayrat. Vous savez, il y a plusieurs mots en Iran, comme dans les sociétés méditerranéennes d'ailleurs, pour exprimer l'honneur. Mm-hmm. Bon, alors il y a le sharaf, ça c'est l'honneur de l'homme bien placé, etc. Et puis il y a le khayrat. Le khayrat, c'est l'honneur masculin. Celui qui n'a pas de rayorat, c'est vraiment la lavette.
Ah, d'accord.
C'est le gars qui ne sait pas réagir à une atteinte, à sa dignité, etc. Et donc, c'est vrai que quand on chatouille ce sens de l'honneur aussi, il peut y avoir des réactions extrêmement vives, un petit peu comme dans les milieux méditerranéens où on est très attaché...
À vendetta.
Oui, à son honneur. Alors, il y a cet honneur qui ne doit pas être atteint, et puis il y a une autre forme d'honneur qui ne doit pas être atteinte, c'est le namus. Le namus, c'est l'honneur des hommes, mais dont sont dépositaires les hommes, mais qui touche à l'honneur des femmes. C'est-à-dire que si jamais il y a une atteinte qui est portée à une femme de la parenté, a fortiori à sa femme, à ce moment-là, il faut savoir réagir de façon virulente et immédiate. Donc, il y a Khayrat et Namous qui sont véritablement deux concepts importants pour comprendre les comportements en Iran.
Et pour terminer, finalement, cette société iranienne, elle est de plus en plus urbaine. Est-ce que ça trace entre les populations urbaines et les populations rurales un écart qui a tendance à se... augmenter ou pas?
Vous avez tout à fait raison. Vous savez, la révolution iranienne intervient en 1979. Quand la population rurale et la population urbaine sont à peu près équivalentes. Alors que jusque-là, l'Iran était un pays rural, surtout. Faut bien voir qu'en 1900, Téhéran avait 200 000 habitants. Et aujourd'hui, l'agglomération téhéranaise a 15 millions d'habitants.
Ouais.
Dans un pays de 80 millions, c'est quand même considérable. Et aujourd'hui, à vrai dire, la population rurale, je dis même pas paysanne, rurale, c'est 26% de la population iranienne. Donc on a une population urbaine de plus en plus importante qui réclame le droit, donc ce droit à la ville, ce droit aux avenues, mais aussi à Internet, à tous les moyens de communication, etc., aux grandes surfaces, au commerce, à une vie plus internationale, avec une diffusion progressive vers, vers les campagnes. Parce que, en définitive, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'une population paysanne, dépaysannée, disait Paul Vieille, vient s'installer en ville, mais retourne quand même régulièrement là où se trouvent les origines. Parce que c'est ça qui est intéressant aussi en Iran. Je me rappelle d'amis qui étaient en ville, mais ils retournaient quand même à la campagne, dans leur village, pour les rituels de Moharram, dans la mesure où c'était là qu'ils faisaient partie véritablement des associations de pénitents qui existent dans ce village. Et c'était leur origine, leur, leur identité forte. Donc, il y a, alors, il y a aussi dans ces villes ce partage ethnique qui existe. Il y a des quartiers kurdes, des quartiers turcs, des quartiers gilaks, etc. Donc, on retrouve en même temps ces vieilles appartenances et ces vieilles appartenances régionales, provinciales, ethniques. Mais il y a aussi ce mouvement de brassage qui est impliqué par les villes et de la ville vers la campagne aussi.
Donc on a bien une société qui est en mouvement. Qui,
une société en mouvement, tout à fait.
Voilà. Ben écoutez, Christian Bomberger, je vous remercie infiniment de nous avoir éclairé sur cette société iranienne. Je voulais rappeler aux auditeurs qu'ils peuvent nous écouter le jeudi à 12h30, le samedi à 15h ou à 19h en alternance sur 88.1 et sur notre site Radio Zinzine. Ex et radiozinzine.org en direct, en replay. Vous pouvez également charger, télécharger plus exactement, les émissions Marie Nostrum. Je vous signale également, vous pouvez également laisser des messages sur le site radiozinzinex.org, les émissions Marie Nostrum. Et puis, je vous invite également à suivre notre page Facebook qui vous donne un peu l'actualité de ce que nous faisons. Au revoir, à bientôt.